De retour sur Studio ZEF pour cette nouvelle session d'entretien avec des intervenants de cette fête de la récup. On va s'intéresser un petit peu au village réparation et revalorisation avec nos trois invités autour de cette table. Donc André et Alain du Repair Café Blois. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Et avec Cédric Maillet de la ressourcerie Les
Bonnes. Cédric Marmuse.
Cédric Marmuse de la ressourcerie Les Bonnes Manières à Blois. Bonjour, bonjour. Cédric. Bonjour, on va commencer tout de suite. Donc, alors, on vous réunit autour de la même table parce que vos activités sont quand même assez liées, même si vous ne, voilà, même si la ressourcerie, alors la ressourcerie, vous me disiez, fait un petit peu aussi de Repair Café ponctuellement, on va dire.
Régulièrement, c'est une de ses activités.
Voilà, on a aussi l'association donc Repair Café de Blois. La ressourcerie, évidemment, fait aussi vente de matériel, de biens en tout genre, d'occasion.
Oui, une boutique de réemploi, ça c'est notre activité principale. Et en effet, dans les activités annexes, il y a aussi l'activité de Repair Café.
On parle beaucoup d'obsolescence programmée, de télé, des machines à laver, des ordinateurs, même si peut-être que les ordinateurs, vous ne mettez pas forcément trop les mains dedans, il y a des gens peut-être plus spécialisés que vous.
Bah justement, on cherche des bénévoles.
D'accord, ok. Voilà. Le message est clair, voilà. Et passé. Mais en tout cas, il y a plein d'autres outils, hein, les cafetières, les bouilloires, les grille-pains, beaucoup. On parle beaucoup des imprimantes aussi. Alors, je ne sais pas, pareil, si vous mettez la main dans les imprimantes.
Oui, ce matin, Fabien a réparé une imprimante. La seule chose dont on ne répare pas, en gros, c'est le gros électroménager.
C'est le gros électroménager.
Et puis, bon, les fours micro-ondes à cause des très hautes tensions.
Bien sûr, évidemment. Voilà. Donc on parle beaucoup d'obsolescence programmée. Alors il y a des programmes de lutte contre ces malfonctions là, appelons-les comme ça. Mais il en reste encore. Et
puis l'obsolescence programmée, c'est quand même ça fait jaser les journalistes, on va dire.
Pourquoi vous dites ça?
Parce que l'obsolescence programmée, moi je suis d'origine fabrication, ouais. Fabrication mécanique industrielle. Pourquoi est-ce qu'on a de l'obsolescence? Quelquefois elle est programmée. Le plus souvent non.
C'est tout simplement parce que... Il s'agit de mauvaise utilisation ou d'usure d'une pièce?
Non, non. C'est tout simplement que l'acheteur, le client, cherche toujours le prix le plus bas.
Ah oui.
Et donc, pour tirer le prix le plus bas, ben forcément, on tire sur les caractéristiques mécaniques, on tire sur les caractéristiques électriques, etc. Et on arrive à des objets qui ne durent plus. Mais à la base, c'est essentiellement ça. Alors après, il y a effectivement des cas prouvés d'obsolescence programmée très volontairement. On a vu des vidéoprojecteurs, par exemple, qui à 250 heures grillaient volontairement les lampes en envoyant une surtension. Ça, c'est tout à fait volontaire.
Mais pour vous, ça ne représente pas la majorité, évidemment.
Non, la plupart du temps, c'est pour répondre au coût. Et si vous ne fabriquez pas quelque chose de moins cher que le concurrent, vous ne le vendez pas, malheureusement. Mmh. Les gens, regardez l'immense majorité des gens, ils ne s'intéressent qu'au prix. Mmh. Voilà, malheureusement.
Cédric, vous voulez rajouter
quelque chose? Oui, non, juste pour ajouter, il y a aussi une question de normes, en fait. C'est-à-dire que l'obsolescence, elle n'est pas forcément programmée. Mais par exemple, vous prenez un objet aussi basique qu'une cafetière, pour arriver à trouver le pichet là, que vous mettez en fait, en dessous, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de standard.
Chaque marque a sa
propre... chaque marque, chaque édition, chaque série de cafetière a son propre format de... Pardon, j'appelle ça le pichet.
De pichet, ouais.
Je ne sais pas comment dire. Et je sais que nous, à la ressourcerie, on avait vendu à un moment, on les vendait 50 centimes. Mais en fait, c'est très compliqué parce qu'on ne trouve jamais le pichet qui va sur sa propre cafetière.
Les gens revenaient vous voir avec le pichet en disant « Ah bah finalement, ça ne rentre pas dans la
cafetière
que j'avais. » Ils avaient cassé leur verre. Ouais, ouais.
Voilà. Et donc, il n'y a pas forcément une question seulement d'obsolescence programmée. Il y a aussi une question que, de toute façon, les objets ne sont pas pensés pour être forcément réparés avec des pièces qu'on peut retrouver après dans le temps, etc.
Bon, et puis les normes sont élaborées en collaboration entre le privé, les fabricants, et les institutions de normalisation. Donc le privé a un pouvoir très fort. Et il y a des choses, par exemple, prenez les disjoncteurs électriques. Les puits d'entrée des fils n'ont pas leur dimension normalisée. Donc vous changez de marque, les peignes de branchement ne se branchent pas. Alors qu'on est sur une matière électrique qui semble être extrêmement normalisée. Donc il y a des manques comme ça qui sont absolument scandaleux. Mais parce que une collusion entre industriels pour ne pas normaliser.
Oui, alors heureusement, il y a quand même des choses qui évoluent dans le bon sens. On l'a vu récemment, il y a encore 20 ans, les téléphones portables, chaque constructeur avait son propre chargeur. Et on voit bien que l'Union européenne a fait son job en normalisant et pour éviter d'avoir justement des...
À part un.
Ah oui, le dernier qui résiste.
Un seul. On ne nommera pas, mais tout le monde de qui on
ça
parle.
Ça commence par un A, non ?
Mais en effet, c'est très important là-dessus. Ce qui est important, c'est vraiment que les pouvoirs publics agissent parce que les lobbies sont très puissants. Très puissants. En ce moment, il y a une loi économie circulaire qui est en cours de discussion, notamment sur les fonds réemploi. Les fonds réemploi pour les gens, pour qu'ils voient à peu près ce que c'est, quand on achète un appareil électrique, on paye une éco-taxe.
Éco-participation.
Oui. Voilà. Et cette éco-participation, elle part dans un fonds et ce fonds rétribue les gens qui collectent les appareils pour les emmener dans les bonnes filières de démantèlement, de recyclage. Nous, voilà, c'est ce qu'on appelle les éco-organismes. Et là, il y a tout un débat où le champ de l'économie sociale et solidaire aimerait les réseaux Emmaüs, les réseaux ressourceries se sont mis ensemble pour faire du plaidoyer. Ça fait 2 ans. Et dès qu'on avance, il y a un industriel ou un lobby.
Pas en avant, pas en arrière.
Ouais, c'est extrêmement compliqué de faire face en fait au poids aussi de ces lobbies. On a la même chose là actuellement sur tous les équipementiers sportifs où vous avez des associations, je pense ici évidemment à Vélo 41 qui font du réemploi de vélo depuis très longtemps. Puis derrière on a Décathlon qui va voir les parlementaires en disant oui mais vous comprenez, nous on est vachement mieux implantés que toutes ces petites structures associatives qui ne seront pas capables d'absorber tous ces vélos pour être efficaces, donc donnez-nous une plus grosse part du gâteau qu'à eux, alors qu'au final, on sait très bien que finalement, c'est nous, dans le champ de l'économie sociale et solidaire, qu'on a besoin d'être accompagnés, d'augmenter nos possibilités d'autofinancement, et qu'évidemment, on a toute la compétence, toutes nos associations ont la compétence, mais il nous faut des moyens. Et donc, c'est un débat aujourd'hui qui est là, qui est en cours, et c'est très compliqué. On voit qu'il faut rester très vigilant. Il y a deux visions qui s'affrontent.
Et ben, parlons de moyens, d'efficacité, de compétences. Le Repair Café, de Blois, vous êtes combien de bénévoles ?
On va dire 5-6
réguliers. Ouais.
J'imagine que toutes les mains sont bonnes.
Toutes les bonnes volontés. Alors, le Repair Café, pour moi, je me suis mis au Repair Café. Pourquoi ? C'est pas simplement pour réparer, parce que réparer, je fais ça depuis 40 ans, je répare un petit peu n'importe quoi, je répare pour moi sans aucun problème. Moi, ce qui m'a motivé pour faire le Repair Café, c'est que dans la charte du Repair Café, il y a en plus le fait de transmettre, d'apprendre aux gens à dominer un petit peu la technologie. Et c'est ça qui me semble essentiel, c'est cette transmission. Et ça, c'est au-dessus de tout, vraiment.
On en parlait avec ADEPA, la ressourcerie informatique, qui sont dans cette même dynamique que vous, effectivement. De transmettre, d'apprendre, de faire avec. Moi qui ai déjà fréquenté un Repair Café, effectivement, sur le grille-pain, on va comprendre pourquoi, même si on a vidé la petite languette en dessous, bah, le grille-pain ne fonctionne pas, on va comprendre pourquoi. Donc on va tout dévisser, c'est pas très compliqué, il faut apprendre à le faire. Des fois on peut avoir un peu peur d'aller dans les trucs électriques.
C'est normal d'avoir peur, c'est normal d'avoir peur. En électricité par exemple, il y a des risques. C'est clair que pourquoi on ne fait pas les micro-ondes, c'est parce qu'on travaille avec des tensions de 2 à 4 000 volts. C'est capable de tuer un homme, ça.
Ouais.
Donc voilà, il y a des choses qui sont vraiment risquées. Donc après, pour travailler dans le domaine électrique, il faut faire très attention, il faut avoir un minimum de culture. Ceci dit, en ayant débranché l'appareil, on peut faire par exemple des mesures de résistance qui sont en sécurité, qui ne posent pas de problème. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut apprendre aux gens. Et puis il y a des gens qui ont quand même des connaissances à côté, qui sont aussi capables de faire des mesures sous tension, etc. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui pour moi permettent, en somme c'est la parabole du poisson et de la pêche, il vaut mieux apprendre à pêcher que donner un poisson. L'esprit de l'Hyper Café, c'est apprendre à pêcher, c'est ça qui me passionne.
Les bonnes manières, c'est aussi ça, alors c'est d'apprendre, de connaître, d'apprendre à savoir réutiliser, réparer, réemployer.
C'est très important cette notion en effet de dédramatiser l'acte de réparer, parce que là on parle en effet, il y a des sujets électriques où il faut avoir des connaissances, mais alors parfois il y a des choses qui sont hyper basiques, et là c'est important que les gens n'aient pas peur d'ouvrir leur appareil. Je reprends la cafetière qui va être juste entartrée, où les gens vont l'amener en nous disant elle fonctionne plus, alors qu'il suffit juste de la nettoyer. Des fois c'est un petit coup de soufflette aussi c'est pareil pour les appareils Hi-Fi, c'est pareil. Non mais c'est important parce que
parfois il suffit simplement de dire le mode d'emploi.
Oui, mais c'est pas une démarche qui est naturelle parce qu'on est dans une société absolument de consommation, et que quand ça fonctionne
plus
pas,
le temps,
c'est plus simple d'aller acheter un truc en promo. Et donc voilà, il y a cette culture malheureusement qui nous domine dans nos propres fonctionnements.
Et puis notre emploi c'est réparatif, vous avez déjà 15 pages de sécurité complètement complètement ridicules,
tout à fait.
Qui sont simplement du parapluie, quoi, de la couverture administrative.
Exactement.
Et nous, ça n'a strictement aucun intérêt.
Tout à fait. Et donc, nous, ce qu'on fait à la ressourcerie depuis 2018, alors, bon, on s'est fait labelliser Ripper Café en même temps à peu près que l'association Ripper Café. Bah, simultanément, mais
non.
Ça faisait quand même quelques années qu'on faisait des ateliers, qu'on appelait les ateliers électro,
ouais.
Mais de la même façon, les ateliers couture. Enfin, l'idée, c'est aussi que les gens apprennent à allonger la durée de vie des objets. Après, peu importe, il y a aussi les loisirs créatifs. Là, je vois notre animatrice qui est là, qui nous prend en photo, qui du coup programme, que ce soit fabriquer des attrape-rêves, que ce soit fabriquer des tawashi, que ce soit réparer l'électro ou faire de la couture. Ça participe à sensibiliser les gens à l'allongement de la durée de vie des objets. Et je crois que toutes nos associations ici réunies, bah, elles sont là pour ça. Faire en sorte que on dédramatise un peu le sujet et qu'on apprenne à faire soi-même.
On parle énormément de recyclage. Pour moi, le recyclage, c'est du greenwashing. Il ne faut pas faire de recyclage.
Bien sûr.
Il faut déjà essayer de ne pas gaspiller et puis il faut surtout essayer de réutiliser.
Bien sûr.
Si vous prenez les anciens, il y a 50-100 ans, ils réutilisaient les maisons, on les récupérait, on démolissait, on récupérait les pierres, on récupérait les poutres, on réutilisait tout. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On casse tout. Et en plus, avec le béton, on peut beaucoup plus difficilement récupérer. Et c'est un petit peu la même chose avec tout le matériel.
C'est important ce que vous dites, hein, parce que la filière du bâtiment, c'est une des filières où il y a finalement le moindre emploi, le moindre réutilisation.
Faire du ciment, c'est faire du CO2. Hein.
Tout à fait.
L'immense majorité du CO2 émis lors de la fabrication du ciment. La fabrication du ciment dans le monde, c'est quand même 6 à 7% des émissions de CO2 mondiales.
Tout à fait. Hein.
Donc, c'est pas tant le chauffage de la pierre,
c'est
le CaCO3 qu'on transforme en CaCO. C'est le CO2 qu'on balance dans l'atmosphère pour avoir du ciment.
Sans compter l'impact sur la biodiversité de l'extraction déjà, en plus de l'impact sur le climat.
Oui, celle-ci elle est relativement minime par rapport à la quantité de CO2 qu'on balance en faisant du ciment. Bon. Alors qu'en taillant de la pierre, on en balance...
On a eu des exemples quand même, nous, avec la Loire, avec de l'extraction de sable, où on a vu que ça a un peu bousillé la biodiversité.
Oui,
il a fallu qu'elle mette du temps à se reconstruire derrière. Ouais.
Mais lorsqu'on bouscule la biodiversité, tant qu'on ne la bouscule pas trop profondément, derrière, elle s'adapte. Regardez toutes les anciennes carrières, ça a créé de nouveaux biotopes, ça a créé des milieux de vie différents et qui ont enrichi, quelque part, le biotope. À partir du moment où on creuse des carrières partout, ben oui, ça ne va plus. Hein, mais
c'est ça,
bon, ce qu'il faut voir, c'est qu'actuellement, on est 8 milliards sur Terre. Il y a 100 ans, on était combien? 2 milliards?
Peut-être, maximum.
Ouais. Voilà.
Donc, je vais resserrer sur vos activités respectives, messieurs. Je sens le débat passionné et passionnant. Et il est important de rappeler aussi toutes ces choses. Vous avez raison de le faire. Mais j'aimerais revenir sur le côté pratique. Qu'est-ce qu'on vous amène le plus, vous, au Ripper Café? Donc, est-ce que c'est le petit électroménager? Est-ce que c'est de l'électrique basique? Quels sont les domaines d'intervention les plus fréquents chez vous?
Moi, je serais tenté de dire que c'est le petit électroménager quand même.
Il y a beaucoup de télé quand même.
Il y a de la télé, oui.
Les écrans plats.
Les écrans plats.
Oui, les écrans plats, oui. Ouais.
Alors qu'il suffit de démonter, de dévisser l'extérieur et puis de regarder.
Ouais. Non. Oui, bien souvent, c'est le rétroéclairage, mais ouais. C'est compliqué à démonter. Si on n'a pas un petit peu l'habitude, vous savez, quand vous êtes tombé dans les petits connecteurs, là, déjà, il ne faut pas les casser. Donc c'est compliqué à démonter. Ça se fait, mais je trouve que c'est aussi l'intérêt de choses comme le Ripper Café. Il faut de l'outillage pour démonter. Or, pour moi, l'avenir de l'humanité, c'est pas la possession individuelle, c'est la possession de petits ateliers locaux.
Tout à fait.
Et je pense qu'il faudrait tendre vers ça. Il faudrait avoir des ateliers au niveau quartier, pratiquement, où on ait suffisamment de ressources pour pouvoir réparer beaucoup de choses. Et la mise en commun de toutes les compétences, pour moi, c'est ça l'avenir de l'humanité. Elle est vraiment là.
Parce qu'on a de la chance quand même à Aglopolis, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, il n'y avait pas encore d'atelier de réparation. Et là, on en voit qui, tous les jours, émergent. Que ce soit, nous on intervient déjà en partenariat à différents endroits, que ce soit à Candé-sur-Beuvron, que ce soit à Vineuil, vous êtes à Molineuf, à Blois. Et on a là quelque chose qui se crée également à Sellette. Donc on voit bien qu'en quelques années, quand même, il y a une petite prise de conscience. Et je pense qu'on y arrive, petit à petit, mais on y arrive.
Oui, mais je pense que ça demande encore beaucoup de progrès. Pour moi, il faut presque que ce soit le vieux quartier. Si vous devez prendre votre voiture pour aller à chaque fois, c'est trop. Ça doit se faire à vélo, ça doit se faire à pied. Ça doit être vraiment local. Hein, c'est l'objectif, c'est ça. Pour moi, c'est ça.
L'écologie revient au galop quand même, hein, quand on parle là. Hein.
C'est ça, tout à fait.
Je suis absolument.
Ça m'a l'air d'être fondamental.
les consciences s'éveillent au fil du temps, oui. Je reviens sur ce que vous disiez, pour réparer, il faut l'outillage aussi. Est-ce que si on vient à votre Repair Café, est-ce qu'on peut réparer nous-mêmes nos objets avec les outils que vous proposez ?
Avec le plus grand bonheur.
Ouais.
Alors là, c'est vraiment mon objectif. Moi, mon objectif, je vais dire, c'est de faire disparaître le Repair Café.
Mais bien sûr. Ouais.
Pourquoi ? Ben lorsque
j'aurais fait disparaître le Repair Café, du cœur, on espère tous que ça disparaisse, voilà, parce que ça voudra dire qu'on aura éradiqué les malfonctions.
Moi, si je suis bénévole, c'est effectivement pour. Je souhaiterais que tout le monde reparte en ayant réparé son propre appareil. Bon, après, c'est pas toujours possible, mais venez voir les gens. Il y a plein de gens qui repartent en ayant appris plein de choses.
Les gens, c'est ça qui me passionne. Les gens ont peut-être peur, des fois, tout simplement, de mettre les mains dans leur appareil.
C'est normal, c'est normal. C'est compliqué. Ouais. Les plastiques, tout ce qui est plastique clipsé, ça casse très facilement. Ouais. Il faut. Là, j'avoue qu'on a le Repair Café nous a permis d'acheter avec les dons qu'on a en fin de réparation du petit outillage,
de l'outillage de précision pour maintenir.
Bon, et puis avec les données sur Internet, on arrive à trouver des choses, des informations intéressantes.
J'ai un tout petit témoignage. Justement par rapport à ce que tu dis, André, c'est que en fait moi j'ai remarqué à chaque journée permanence, j'ai remarqué que les gens quand même qui amènent quelque chose ont envie de rester là et de nous regarder faire. C'est un début, André. Hein.
Ah, c'est plus que regarder faire. Moi, je me souviens d'un gars qui était venu avec deux perceuses. On en a fait une seule.
Ah oui, oui très juste.
On a travaillé tous les deux. Il a travaillé autant que moi. Il a usiné avec la petite Dremel. Enfin, voilà.
Et c'est comme ça qu'on récupère aussi des bénévoles.
C'était un gars qui faisait de la...
Physiquement, comment ça se
qui
passe,
était sur des spectacles de cirque, entre autres, et qui faisait de la barbe à papa avec des perceuses. Un dreadlock. Mais voilà, c'est des rencontres.
Avec un forêt, ça peut.
Mais c'est des rencontres géniales, ça. Et il y a aussi des rencontres humaines comme ça qui sont passionnantes.
Et pour revenir sur le grille-pain et justement l'initiation, moi, l'avant-dernière fois que je suis allé à Repair Café, il y a une dame, plutôt une dame assez âgée, plus que retraitée, elle est restée devant et elle a compris ce qui s'était passé, puisque le grille-pain en question, il y a un petit électroaimant, et même moi j'ai appris que à base le contact était à base d'un électroaimant, et elle l'a découvert avec moi. C'est quand même génial.
C'est fantastique.
C'est-à-dire qu'on l'a réparé ensemble.
Oui.
Mais parfois il y a des choses, moi je me souviens que les premiers objets qu'on réparait, alors juste pour dire, mais je pense qu'on est d'accord là-dessus, je crois qu'il n'y a pas d'obligation de résultat, mais ce qu'on donne, c'est une obligation de moyens. C'est-à-dire que c'est vraiment important cette notion, je pense, de dédramatiser l'acte, d'ouvrir son appareil, de se dire, allez, on peut être capable de le faire. Et je me souviens d'un exemple, quelqu'un qui avait un aspirateur qui avait... peut-être 30 ans, mais du coup très efficace, quoi, qui l'a jamais lâché. Et là, elle s'est dit, bon, c'est vraiment mon dernier espoir, mais j'y crois pas trop, mais je vous l'emmène quand même. On va quand même regarder, parce qu'au bout de 30 ans, c'est normal qu'il soit mort.
Ouais, pourquoi ?
Quel
âge avez-vous ? Vous avez plus de 30 ans.
Et donc, elle amène son aspirateur, on commence à démonter l'aspirateur, et là... C'était juste, vous savez, le fil qu'on tire et qu'on retire. Et en fait, à force de le tirer, il y avait juste un faux contact dans l'alimentation électrique. Ça veut dire que tout l'appareil, on n'y a pas touché, était nickel. Et ça, c'est hyper important parce que si on désacralise pas cet acte-là...
Il faut désacraliser la technologie.
Voilà, et c'est hyper important. Et je pense qu'on est surtout là pour dire aux gens, il faut d'abord essayer avant de jeter, avant de remplacer. Mais je pense que c'est vraiment important.
Je pense qu'il faut aussi comprendre les réparateurs. Nous n'avons pas d'obligation de réparation, il arrive que parfois on n'y arrive pas, hein, qu'on ne puisse plus avoir les composants, qu'on ne puisse plus. Alors que les réparateurs, eux, doivent pouvoir vivre. Donc c'est compliqué aussi. Et puis ils ont en plus une obligation de résultat de par la loi.
Oui. Tout à fait. Cédric, on va parler aussi un petit peu des bonnes manières, du coup, de la ressourcerie. Alors, première question sur la ressourcerie, qu'est-ce qu'on ne trouve pas à la ressourcerie ?
Alors, on ne va pas trouver tout ce que nous interdit la loi, puisqu'on traite. La loi est toujours un peu en retard par rapport à la réalité, mais nous, on fait partie des traitements des déchets non dangereux. Bon, en fait, c'est pas des déchets puisqu'on les valorise. Donc, tout ce qui va être dangereux, ça va être les appareils à gaz, les appareils thermiques. Si vous nous amenez une tondeuse électrique, on la prend. Si vous amenez une tondeuse thermique, on la prend pas. On trouvera pas de consommables. Donc voilà, on va pas trouver ni d'alimentaire, ni de... Voilà, tout ce qui est consommable, évidemment.
Bien sûr, ouais.
On n'est pas habilité à ça, sinon on va trouver tout le reste.
C'est ça, voilà. C'est pour ça que je posais la question, parce que je savais que vous auriez fait plus vite le tour de ce qu'on ne trouve pas dans une ressourcerie, plutôt que ce qu'on trouve.
C'est ça.
Et donc voilà, du vêtement, du petit électroménager qui a été testé avant d'être remis sur le...
Du petit électroménager, aussi un peu de gros, mais moins souvent.
Ouais, c'est ça.
Voilà, moins souvent.
Vous êtes bouquiniste, vous êtes...
Non, parce que je ne voudrais pas me fâcher avec les bouquinistes. Vous vendez des livres. Bouquiniste, c'est quand même quelqu'un qui travaille, qui a vraiment une culture du livre. Nous, on gère des flux. Ouais,
on n'est pas là pour créer des conflits.
Évidemment qu'on essaye de ranger, évidemment qu'on essaye de faire au mieux, mais vraiment, je ne voudrais pas me fâcher. Et d'ailleurs, au contraire, nous, on est ravis quand il y a des professionnels qui viennent se fournir chez nous.
Ouais.
Parce que finalement, même s'ils revendent plus cher, ce qu'ils vendent plus cher, c'est leur savoir-faire, leur regard. Et donc il n'y a pas de problème. Nous, on considère que justement, on évite à des objets qui peuvent être encore utiles d'avoir une seconde vie. Si après il y a des gens qui ont ce regard un peu particulier et qui arrivent à se faire leur marge en plus, nous, ça ne nous pose pas de problème. Alors, faut pas non plus exagérer. Et quand on a je sais pas, si on a un Picasso et qu'on le vend 5 balles, on sera peut-être quand même un peu déçu. Après, on essaye aussi d'orienter, hein. On a la vente en ligne, donc on s'adresse pas au même public. On a l'hôtel des ventes aussi, hein. Parfois on a des œuvres d'art, on se dit qu'on n'est pas apte, nous, à les vendre. Et ça part... Voilà, donc il y a différentes possibilités. L'idée, c'est qu'un objet, il puisse... on l'aide à faire son chemin pour qu'il trouve un nouvel acquéreur. Donc l'idée, c'est de le mettre vraiment dans le bon chemin. Pour qu'il trouve son acquéreur.
C'est pas seulement réparation. Quoi,
voilà, et donc parfois, un livre... Nous, c'est une activité annexe, hein, une ressourcerie, elle a vocation sur un territoire à faire comprendre comment on allonge la durée de vie. Allonger la durée de vie, ça passe par donner déjà les objets dont on ne sait pas quoi faire pour que d'autres s'en servent. Et puis, il y a évidemment l'idée de réparer ou de créer. Il y a aussi, nous, quand on a commencé les ateliers, il n'y avait pas d'intention initialement de faire uniquement Repair Café. C'est pour ça que d'ailleurs on a été labellisé très tard. Il y avait aussi des ateliers créatifs, hein. Fabriqués là à la fête de la récup, on a quelques palettes en forme de triangle, il suffit de rajouter des guirlandes et des boules et ça nous fait un sympa de Noël avec des palettes en récup. Enfin, l'idée, c'est de faire travailler aussi l'imaginaire des gens, de les sortir finalement, de déconstruire en fait la pensée dans laquelle on vit principale, qui est la consommation, le remplacement. Je me souviens d'une dame qui parfois, je pense que ça vous arrive aussi, nous prenne un peu pour des réparateurs, dans le sens comme si on avait un service.
Ça ne dure pas.
Professionnel. Non, mais je me souviens très bien d'une dame une fois, je crois que j'avais raconté déjà il y a 2 ans, donc je suis un peu redondant, mais qui me dit oui, alors je sais plus ce que c'était comme objet qui marche pas. Mais je me suis renseigné, j'ai appelé un réparateur, il me prend, en temps, disons 50 euros. Mais bon, là, pour le même objet, il y a une promo et je peux l'avoir à 40 euros. Et je me souviens m'être un peu fâché avec cette dame en disant, mais qu'est-ce que vous voulez en fait ? Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un moment, le réparateur dont c'est le travail, bah, il cotise à la sécu pour sa retraite. Vous pouvez pas me dire que vous êtes désolé d'abandonner votre vieil objet parce que ça vous fait mal au cœur de le jeter et me dire je vais quand même pas le faire réparer pour 10 balles de différence parce que c'est moins cher au supermarché. Mais en fait, il y a un moment, je lui ai expliqué l'incohérence en disant mais attendez, vous allez faire venir un objet qui a été fabriqué avec 3 francs 6 sous d'un travailleur mal payé à l'autre bout du monde qui a pas de couverture sociale.
Sur ce que vous disiez,
du coup, il y a aussi une prise de conscience politique de dire mais c'est normal qu'on paye le prix des vraies choses. Et puis, il y a une autre alternative. Il y a ce que vous faites, vous, au Repair Café, c'est faire en sorte, et ce qu'on fait aussi, c'est faire en sorte que les gens fassent soi-même. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si on n'est pas prêt à payer un service, faut arriver à trouver la solution pour faire soi-même. Quoi. Et ça, c'est hyper important de se rendre compte du coût réel des choses et du coût humain qui est derrière. Quoi. C'est-à-dire qu'à force d'acheter pas cher, on crée de la misère à l'autre bout du monde et... évidemment, et du déchet, en plus.
J'ai par principe de ne pas acheter de produits fabriqués dans des conditions où moi-même ou mes enfants refuseraient de travailler.
Exactement, mais vous avez raison, je pense qu'il faudrait que tout le monde ait ça en tête.
Tout à fait, et donc d'où l'existence et la nécessité absolue, effectivement, de lieux tels que les vôtres, à la fois dans la revente de seconde main et dans le réemploi, la réparation d'appareils.
Là, c'est la réutilisation à outrance bien avant le recyclage. Le recyclage, c'est qu'un terme ultime.
Tout à fait.
C'est une question de traitement déchets, on n'est pas dans la prévention des déchets, on est dans le traitement des déchets déjà avec le recyclage. Le recyclage, ça consomme de l'énergie, ça a un impact négatif sur l'environnement, moins que l'enfouissement ou l'incinération, évidemment, mais ça reste une solution de traitement de déchets et pas de prévention. Et aujourd'hui, l'urgence dans laquelle on est demande à ce qu'on développe la prévention des déchets. Donc ça passe en effet par une consommation responsable, l'allongement de la durée de vie des objets. Donc c'est très très important.
On a bien parlé effectivement de vos activités et de tout ce que ça englobe et de tout ce que ça impacte sur notre quotidien et sur le quotidien de la planète. Donc merci messieurs à vous trois. Donc,
encore une fois,
pour finir, parce que sinon j'ai l'impression qu'on vous arrête pas.
On cherche encore des bénévoles, parce que bien souvent, malheureusement, les gens n'osent pas, alors que le principe, c'est aussi de mutualiser toutes les connaissances.
Bien sûr.
Moi, ce matin, j'ai trouvé mes limites sur un produit, j'ai demandé à Fabien, et voilà.
Et c'était reparti. Voilà. Vous cherchez des bénévoles aussi à la ressourcerie, vous avez des besoins?
Alors, on a de la chance, ils viennent à nous assez régulièrement.
Super.
Donc, là, on a une cinquantaine de bénévoles. Alors après, nous, on a différentes activités. Il y a la partie collecte, la partie boutique, la partie tri, la partie qu'on appelle animation, qui est autant sur les Repair Café, les ateliers créatifs, que d'autres événements, comme des... Voilà, on a déjà fait dessiner des balles. Il y en aura certainement un aussi au Lobby en janvier, où l'idée, c'est d'avoir un film comme support pour parler autour de la thématique déchets. Donc voilà, si évidemment voilà, on est ouvert, on est accueillant, on a des services civiques, on a des tiges, des miges, des chantiers éducatifs. Voilà,
donc force de toute façon, on accueille, force de travail,
on accueille toutes les bonnes volontés aux bonnes manières.
Voilà. Très bien, merci, beau message. Oui, et pour terminer.
Oui, alors un petit mot, et André me corrigera si je me trompe, mais puisqu'on fait un appel aux bénévoles, moi je voulais simplement dire que on peut ne pas se sentir forcément un grand technicien pour venir réparer.
Tout à fait.
J'ai un petit témoignage personnel, c'est-à-dire que moi je suis un passionné, j'étais un passionné étant jeune de la radioélectricité, et je voulais en faire mon métier, j'étais pas assez matheux pour le faire, bref. Mais la passion est restée, et je pense que des gens qui veulent se passionner... Moi, j'ai la passion de la recherche de la panne. Eh bien, rien que ça, avec l'aide et la mutualisation qu'on peut avoir entre bénévoles sur un Repair Café, je pense que la voie, elle est ouverte.
Ce matin, un enquêteur qui est passé pour faire réparer une machine à café, il a appris beaucoup de choses parce qu'il avait la démarche logique. Un enquêteur, il n'est absolument pas technicien.
Voilà, vous voyez par exemple.
Et ben voilà, donc l'idée c'est aussi de partir de la volonté de citoyenne et quotidienne de se familiariser avec tous ces espaces et tous ces outils pour.
Si je peux me permettre, en effet, l'engagement.
Pour finir
citoyen...
aussi, c'est le dernier mot pour vous.
Pardon, je suis désolé.
Les deux autres ont fini, donc
mais parce que c'est quand même un point commun entre toutes nos associations qui sont là, c'est-à-dire que la meilleure sensibilisation à ces bons comportements, ça passe par l'investissement justement dans nos associations. C'est-à-dire qu'on peut avoir une petite conscience écologique, mais quand on est face à la réalité, on se rend compte souvent qu'elle est bien pire que ce qu'on avait imaginé. Voilà, nous les gens qui sont à la collecte, ils hallucinent du nombre de choses qui vient, et je tiens à dire, on intervient en déchetterie là depuis 2 ans, et ce qui arrive de déchetterie est presque en meilleur état que ce que nous donnent les gens qui pourtant font déjà attention quand même à ce qu'ils donnent, mais c'est impressionnant. Et aujourd'hui, on a la moitié de ce que vous trouvez en boutique qui provient des 2 déchetteries d'Aglopolis dans lesquelles on est présent, la chaussée Saint-Victor et Chouzy-sur-Cisse, mais vraiment des choses qui sont dans un état, on se demande comment on peut jeter ça.
Alors après, en étant criminel de l'environnement.
Alors parfois on est aussi un peu esclave. Non, mais parfois on est aussi un peu esclave du monde dans lequel on est. C'est un truc tout bête, hein, mais les parents qui décèdent, on habite à 500 km, on a que 2 jours de congé à poser, on ne sait pas comment s'y prendre, la solution la plus rapide et la plus efficace, c'est la déchetterie. Donc c'est hyper aussi important, c'est toujours un sujet politique, de mettre en place des infrastructures qui prennent en compte cette réalité, etc. Mais ce qui est le cas d'Aglopolis, d'ailleurs, en ayant ouvert ses points de collecte à la chaussée et à Chouzy, mais voilà, c'est important.
Il y a aussi des gens qui jettent simplement pour changer.
Oui. Alors ça, il y en a, mais il y en a.
Il
faut déjà qu'on aide ceux qui ont envie de faire bien.
Oui. Heureusement que, effectivement, des points comme les ressourceries font ce travail de récupération dans des lieux qui puissent valoriser le réemploi. Merci beaucoup, messieurs, c'était passionnant.
Merci
de vous être arrêtés à notre micro. On se fait une petite pause musicale et on a encore des invités à recevoir. À tout de suite.
Merci.